franceinter.fr.
C'était un avis très attendu. Les membres du Comité consultatif national d'éthique qui se sont prononcés en faveur de l'élargissement de droit à la PMA aux couples et aux femmes. Seuls, en revanche, les experts se disent réservés au sujet de la congélation des ovocytes pour raisons non thérapeutiques et clairement opposés à la gestation pour autrui. Pour en discuter, Jean-François Delfraissy, vous êtes avec nous au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Comité consultatif national d'éthique. Commençons par la petite révolution de ce texte, la PMA ouverte pour les femmes seules ou en couple. Comment s'est construite votre réflexion autour de cette question ?
Elle s'est construite de façon globale et pas seulement sur le problème de la PMA, et on a beaucoup insisté là-dessus. Le comité ne prétend pas détenir le savoir ni de dogme. Il a une construction qui a été difficile parce que c'est des sujets complexes qui touchent à la fois la sexualité, la filiation, la procréation. Et on imagine les débats qui ont pu avoir lieu. Donc on a construit un modèle qui n'est pas vrai d'ailleurs que pour la PMA, mais pour d'autres sujets très difficiles en éthique, hein, avec des points de disjonction qui à certains moments peuvent se poser, les points de relation avec la société, puis des points de butée sur lesquels on n'est pas d'accord et où il n'y a pas consensus, je dirais, au sein du comité. Néanmoins, après tout ça, il nous a paru quand même nécessaire, bien sûr, d'éclairer avec ce modèle général de construction de la pensée, mais aussi de donner quelques indications. Alors, en effet, la première, c'est sur l'accès à l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes. Pourquoi ? Parce que, somme toute, il y a une demande sociétale, elle n'est pas massive, mais elle existe. Parce qu'il n'y a pas de problème technique, on sait faire, on sait quoi faire, il n'y a pas de vrai problème autour de cela, il n'y a pas de violence qui est soulevée sur ces ni pour la femme, ni pour les donneurs qui est autour de ces problèmes techniques. Et parce qu'il y a une relation assez simple vis-à-vis de l'enfant, puisqu'il y a une mère et avec un enfant. Par contre, on a mis des conditions importantes de faisabilité qui sont d'ordre divers, c'est-à-dire de ne pas changer le mécanisme du don en général en France, et en particulier du don de sperme, de ne pas fragiliser le système de santé français, et on souhaite rester, si cette disposition est portée par les politiques, dans le système public, avec une prise en charge qui pourrait être partagée par les demandeurs. Et puis on demande un suivi aussi, c'est-à-dire que c'est pas seulement une recommandation qui est en l'air. Il faut qu'on mette en place des études scientifiques plus poussées qu'elles n'ont eu lieu, que deviennent les enfants, parce que les enfants sont au cœur du débat de tout ça, et c'est pas seulement une demande des adultes.
Est-ce que ça veut dire pas de recommandation particulière au sujet de l'anonymat des donneurs ?
Si, ça veut dire qu'on rentre dans le système tel qu'il est, c'est-à-dire on ne souhaite pas bouleverser, changer, comme ça existe d'ailleurs dans d'autres pays, et on souhaite pour l'instant rester dans le domaine que ça soit porté par les SECOS, tel que le gèrent les SECOS pour d'autres indications avec un anonymat. Et puis voilà, c'est un temps donné, c'est une réflexion qui a été longue, hein, vous le savez, du comité national d'éthique, parce que c'est difficile, hein, parce que voilà. Et elle est donnée en juin 2017. Il y aura une révision de la loi bioéthique sur bien d'autres sujets que ces aspects-là en 2018, qui est un enjeu très important pour tout le monde, pour nos scientifiques, pour nos sociétés. Et je pense qu'on reviendra sur certains aspects de la PMA et sur des choses beaucoup plus complexes autour de la procréation. Par exemple, l'utilisation des nouveaux outils de génomique sur les cellules germinales, avec toutes les questions majeures que ça pose et qui sont beaucoup plus importantes à mes yeux encore que ces aspects de d'indications sociétales, parce qu'ils risquent de bouleverser complètement toute une série de données que nous avons depuis que nous existons.
Alors, sur la question de la congélation des ovocytes, une autre question très attendue. Vous vous prononcez avec réserve. Quels sont les points bloquants pour le comité ?
Eh bien, les points bloquants sont d'ordre médical, plus que d'ailleurs presque éthique, mais l'éthique est aussi, bien sûr, est soulevée quand il y a des problèmes médicaux, dans les aspects bénéfice-risque. Pourquoi ? Parce que c'est une aventure, hein, c'est quand même cette autoconservation des ovocytes, ces femmes jeunes, à qui on va proposer des stimulations hormonales qui sont quelque chose d'assez lourd, 3 stimulations, ça dure plusieurs injections chacune, 15 jours, des modifications importantes. Puis ensuite, il y a une anesthésie générale, un repérage sous écho des ovaires avec les ovocytes, une ponction sous échographie, des risques qui existent, mineurs, mais qui existent, hein, qui sont chiffrés d'ailleurs, hémorragiques, de thrombose ou infectieux. Et donc, dans l'aspect bénéfice-risque, c'est à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que le taux de succès avec ces ovocytes congelés, il n'est pas si bon qu'on ne le pense, c'est-à-dire il n'est pas de 100%, il est de l'ordre de 60% quand la donatrice est une femme jeune, et au fur et à mesure qu'elle vieillit, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien il diminue. C'est-à-dire qu'une femme de 32, 33 ans qui va vouloir avoir donné ses ovocytes, eh bien ses ovocytes ne vont être bons, entre guillemets, que probablement on ne serait de l'ordre de 40%. Donc c'est finalement beaucoup de choses pour très peu de femmes. Mmh. Et c'est pas probablement les bonnes femmes. Si je peux vraiment, je parle de bonnes femmes entre guillemets.
Oui, on l'entendait bien, bien sûr.
L'expression peut prêter à confusion.
Bien sûr.
Il s'agit de ce qu'on aimerait, c'est avoir finalement les femmes qui le nécessitent le plus et qui n'auront pas de projet normal de grossesse. Or la majorité, et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux, va mener chez une femme jeune une rencontre et puis une grossesse qui va se passer normalement. Donc voilà, c'est pour ça que la majorité du comité éthique émet un avis réservé. Puis il y a une minorité qui dit, mais non, vous vous trompez, et finalement, ça appartient à la femme elle-même, c'est l'autonomie de la femme qui doit primer, et si elle souhaite le faire, elle peut le faire. Moi, je me considère là plus dans un aspect, en effet, de médecin, et dans l'aspect bénéfice-risque, et pour l'instant, il y a plus de peut-être de risques de bénéfices.
Alors, votre troisième avis concerne la gestation pour autrui. Là, le comité s'y oppose fermement. Expliquez-nous le choix.
Écoutez, oui, il y a unanimité pour la grossesse pour autrui. Donc on comprend bien que la grossesse sur autrui, c'est faire porter finalement une grossesse par une tierce personne, une femme tierce personne.
C'est louer un ventre, on peut dire aussi des choses comme ça.
Oui, ce modèle existe, il existe dans différents types de pays, dans des pays très à haut revenu, aux États-Unis, au Canada, avec des contrats, des coûts importants, et qui posent évidemment tout le problème ensuite de la filiation. Puis il existe aussi, il faut le savoir, dans des pays qui sont avec des ressources limitées. Et il y a des hôtels à GPA qui se sont montés, entre guillemets, dans des pays, au Bangladesh, au Cambodge, que je connais bien, et où des jeunes femmes sont vendues, entre guillemets, pour faire 3, 4, 5 GPA sur une période de 4 ou 5 ans. Donc des choses vraiment terribles, terribles, qu'on n'imagine pas d'ailleurs les demandeurs de GPA en Europe. Et donc tout cet aspect, cet environnement marchand qui existe autour de la GPA, nous a conduit de façon unanime à dire que nous rejetions cette l'idée de la possibilité d'ouvrir sur la GPA. En tout cas, voilà, en juin 2017, après, l'éthique est quelque chose qui peut évoluer. Il y a des grands principes éthiques, et puis il y a la réalité aussi de l'éthique en fonction de l'évolution de la science, qui m'apparaît très importante, et puis de certaines indications sociétales. On a la loi de bioéthique pour reprendre ces sujets, mais en tout cas, il y avait une position très ferme à cet égard du comité.
Au sujet de ces réflexions autour de la GPA, il y a aussi ces enfants qui naissent à l'étranger. Est-ce qu'une partie de vos recommandations concerne ces enfants particulièrement ?
Oui, vous avez tout à fait raison de m'interroger là-dessus. Oui, parce que il y a déjà un petit nombre. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas exactement le nombre exact. C'est assez curieux. De GPA qui se font à l'étranger. Et on recommande, mais la loi française est assez ouverte à cet égard, il y a des dispositions récentes qui ont été prises, pour que ces enfants qui n'y peuvent rien, qui sont issus de choix qui ont été faits et qu'une fois de plus, je respecte, hein, même si je les accompagne pas avec l'avis du CCNE, ces enfants n'y sont pour rien. Et donc il faut que notre modèle français puisse faire et donner un statut juridique, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait d'ailleurs, à ses enfants issus de la GPA et qu'il y ait une insertion sociale et familiale aussi bonne que possible. Car derrière tout ça, il y a une réflexion transversale du CCNE pour dire que on écoute tous ces besoins d'adultes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur sexualité, quel que soit le modèle de conjoint classique ou moins classique, mais somme toute, où est la voix des enfants ? Et on conçoit bien que c'est difficile. Et pourtant, c'est essentiel. Et nous avons besoin de savoir, avec des études de recherche sensationnelles, des études de cohorte et de sciences humaines et sociales sur ce que deviennent ces enfants, comment ils se comportent, comment est leur insertion. Et en tout cas, s'il y a une ouverture de la part des autorités gouvernementales vers l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, il faut que ça soit accompagné de recherche opérationnelle pour voir ce qui va se passer dans la vie en vrai.
Voilà Jean-François Delfracy, donc avis rendu public ce matin. Maintenant, c'est aux politiques et aux citoyens, évidemment, hein, de s'emparer de ces réflexions pour nourrir le débat à l'occasion donc, des lois de bioéthique. Ce sera l'année prochaine, le calendrier est fixé là déjà ?
Le calendrier va se fixer avec les autorités gouvernementales. Le CCNE est chargé de débuter la réflexion avec d'une part les différents comités d'éthique issus des organismes de recherche, l'INSERM, le CNRS, l'IRD, Pasteur, enfin, et on va demander à nos collègues scientifiques d'abonder, de nous faire un peu poser les questions qui risquent de se poser et qui dépassent très largement bien sûr la PMA. Et puis d'avoir aussi une vision un peu plus autour des citoyens, un peu via les espaces éthiques régionaux. Mmh. L'éthique n'est pas seulement dans le Paris 7e arrondissement, mais elle se fait aussi en province. Elle se fait dans le 9-3, j'y tiens beaucoup, parce qu'on est ce retour de la société civile sur des grandes questions. Et puis on montrera un grand débat public autour de ça. Et avec aussi, en écoutant le monde, des jeunes étudiants, qu'on ait un monde de jeunesse un peu qui nous interpelle, qui nous bouscule, et qu'on soit pas seulement des vieux sages.
Et vous aurez l'occasion, Jean-François Delfracy, d'y revenir ce soir au téléphone sonne à 19h20 sur cette même antenne. Merci à vous pour ces détails. À bientôt. Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la forme des œufs chez les oiseaux qui dépend de leur capacité en vol. Cette étude élégante et colossale menée par un spécialiste californien est la première de son genre. Menée sur plus de 50 000 photographies d'œufs de plus de 1400 espèces, elle a permis aux chercheurs de comprendre pourquoi certains œufs sont ronds comme des balles de golf quand d'autres sont plus allongés sur une ou même les deux extrémités. À l'aide d'un travail statistique, il montre que la forme des œufs est surtout conditionnée par la forme du bassin des oiseaux. Les oiseaux très athlétiques passent beaucoup de temps en vol et possèdent un bassin plus fin pour permettre un aérodynamisme important. Ils pondent donc des œufs allongés. À l'inverse, un bassin plus gros permet une stature plus équilibré et un œuf bien rond et plus solide. Les chimpanzés ont des muscles plus puissants que les hommes et c'est une question de fibres musculaires. Il était connu depuis des années qu'à poids égal, un chimpanzé surpassait un homme en force brute. Et bien pour le démontrer, le quantifier, des chercheurs sont allés regarder précisément la composition des fibres des muscles de nos cousins primates, avec 36% de fibres rapides en plus que les humains. Les chimpanzés possèdent donc une force musculaire brute 1,4 fois plus importante que nous. Les chercheurs expliquent que les fibres lentes, adaptées aux efforts d'endurance et moins consommatrices d'énergie, auraient petit à petit été sélectionnées chez les premiers humains fortement nomades. Et puis la taille des grands cétacés qui diminue, et c'est un signe d'un effondrement de leur population. Dans un article paru cette semaine dans la revue Nature, des chercheurs suisses montrent qu'en 70 ans, la taille moyenne des spécimens pêchés a diminué de plus de 4 mètres. Un résultat important obtenu en épluchant les registres de pêche des baleiniers, propriété de la commission baleinière internationale, et qui concerne les baleines bleues, les rorquals communs et boréal et le grand cachalot. Ils y voient une preuve de l'impact important de la surexploitation de ces ressources qui ne laisse que les petits spécimens dans la nature pour assurer la perpétuité de l'espèce. Un signe annonciateur du déclin des grands cétacés qui étaient sous le nez des pêcheurs depuis plus de 20 ans, selon les auteurs. Notez que jeudi, le dossier de la tête au carré, donc après-demain, sera consacré aux baleines.